Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Vous le savez, les patients des pays en développement ont du mal à accéder aux médicaments, essentiellement à cause de leur prix. Le développement de génériques qui ne sont plus protégés par des brevets permet de produire des médicaments à moindre coût. De façon assez concrète, la bataille pour l'accès au traitement contre le sida dans les pays du Sud a mis en avant ces problèmes que pose la propriété intellectuelle. Mais grâce à un système de licence obligatoire, des exceptions ont été trouvées permettant la copie de médicaments et leur production à bas coût. Les médicaments contre le sida sont maintenant disponibles dans les pays en développement, mais pas toutes les nouvelles molécules, pas ce qu'on appelle les traitements de deuxième et troisième génération. Et depuis quelques mois, des pressions sont faites pour que certains pays renforcent leurs lois sur les brevets. C'est entre autres le cas de l'Inde et tout récemment de l'Afrique du Sud. Alors, quel est l'impact des brevets sur le prix des médicaments? Quelles en sont les conséquences sur l'accès aux médicaments dans les pays du Sud? Quelles sont aussi les pressions menées sur ces pays pour qu'ils renforcent leurs lois sur les brevets? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont deux autour de cette table. Le docteur Jean-Hervé Bradol, ancien président de Médecins sans frontières. Il est actuellement directeur d'études à la Fondation MSF. Également avec nous, Céline Grillon, coordinatrice plaidoyer internationale à ACT UP Paris. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 deux fois. Dans cette émission, on aura également au téléphone Germaine Velasquez, qui est conseiller spécial santé et développement au Centre Sud, et Otman Melouk, qui coordonne le travail d'ITPC MENA sur l'accès aux médicaments au Maroc. Et en fin d'émission, on fera le point sur l'étude de loi qui est consacrée aux enjeux stratégiques du secteur de santé. Docteur Jean-Hervé Bradol et Céline Grillon, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
À tous les deux d'être là pour parler d'un sujet qui peut paraître compliqué, mais que vous allez nous rendre très simple. On va commencer par le début. Jean-Hervé Bradol, c'est quoi un brevet exactement?
Un brevet, c'est un titre de propriété sur la fabrication et d'un produit de santé en l'occurrence. Et ça donne droit à un monopole pendant une durée minimum de 20 ans. Et ce système des brevets, il n'était pas mondialisé jusqu'il y a très peu de temps, et il a fini de se mondialiser en 2001 avec les conclusions du cycle de négociation de Doha.
Et de façon très concrète, ça veut dire que l'industrie qui sort ce médicament est la seule à pouvoir le produire pendant 20 ans, en gros, c'est ça?
Ça peut pas être produit sans lui verser des subsides. Elle a le monopole de la distribution de ce produit. Pas c'est de la distribution, mais de la propriété.
De la propriété. Céline Grillon, quels sont les traitements qui sont aujourd'hui protégés par un brevet et du coup qui sont trop chers pour les pays du Sud? Alors, on va pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns particulièrement emblématiques.
Alors oui, aujourd'hui, les traitements qui posent particulièrement problème à cause des brevets, ça va être surtout les trithérapies de deuxième et troisième ligne. C'est aussi les nouveaux médicaments contre le virus de l'hépatite C, qui sont très récents et protégés par des brevets.
Et très prometteurs en termes de guérison.
Oui, tout à fait. C'est aussi les médicaments contre la tuberculose multirésistante.
Oui, Jean-Hervé Bradol.
Sur la tuberculose, j'aurais dire un mot, parce que c'est un domaine dans lequel il s'était rien passé depuis la fin des années 50. Il n'y avait pas de nouveaux médicaments. On était en échec sur toute une partie des patients qui étaient résistants au traitement habituel. Il y a très peu de temps, il y a de nouveaux produits qui sont sortis, donc on a cru qu'on allait respirer un peu. Et malheureusement, avec ce système de brevets, un de ces produits, l'inésolide, pour 2 ans de traitement pour un malade, aujourd'hui, en Afrique du Sud, ça nous coûte 30 000 euros.
Donc, 30 000 euros. Au lieu du traitement basique de la tuberculose qui était...
Le traitement basique de la tuberculose, il est de quelques dizaines d'euros par an, quoi. Donc,
30 000 euros pour 2 ans, puisqu'en cas, justement, de tuberculose résistante, le traitement doit durer 2 ans, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et alors, ce médicament, c'est une des rares véritables innovations, hein, parce qu'il nous traite des malades qui étaient condamnés à mort il y a peu de temps. On voudrait évidemment en étendre l'usage à tous les malades sensibles de ce point de vue-là, mais avec ce type de coût, c'est extrêmement difficile de le faire.
Alors cette loi sur les brevets, qui est une loi applicable, effectivement, vous l'avez dit maintenant, dans le monde entier, il y a quand même une façon, entre guillemets, de la contourner, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des aménagements qui ont été faits en cas d'urgence sanitaire, docteur Bradol.
C'est-à-dire que dès le début, dès le cycle de l'Uruguay, les rédacteurs des textes internationaux, ils ont quand même, ils n'étaient pas déments, si si je puis me permettre. Donc ils ont bien vu que pour un certain nombre de produits, dont les médicaments, il faudrait des formes de souplesse au système. Donc dès le début, même avant le cycle de Doha, il y avait dans les textes, les traités internationaux, des mesures qui permettaient une certaine souplesse pour des raisons de santé publique, pour des raisons de sécurité publique.
Et alors il y a eu donc, Céline Grillon, la déclaration de Doha, elle date exactement de quand et qu'est-ce qu'elle dit finalement cette déclaration ?
Alors la déclaration de Doha qui date de 2001, elle rappelle que l'accord, enfin que la loi qu'on appelle l'accord ADPIC sur les brevets, donc signé dans le cadre de l'OMC qui fixe les standards internationaux en matière de brevets pharmaceutiques.
L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Hein.
Oui. Donc la déclaration de Doha, elle rappelle en premier lieu que en aucun cas cet accord ne doit porter atteinte aux objectifs de santé publique et que l'ensemble de ces dispositions doivent être lues et interprétées dans le sens où chaque État a comme priorité et comme droit absolu de protéger la santé dans son pays. Et elle rappelle tout un tas de ce qu'on appelle de flexibilité, c'est-à-dire de possibilité de parfois de déroger aux brevets ou de fixer sa législation nationale sur les brevets pour limiter tout d'abord les abus des brevets et pour répondre aux besoins de santé publique lorsque c'est nécessaire. Donc on connaît les licences obligatoires. La licence obligatoire, c'est la possibilité de autoriser un fabricant à produire des génériques d'un médicament sous brevet lorsque ce brevet a pour conséquence que notamment la population ne peut pas avoir accès aux médicaments.
Si on reprend l'exemple très concret de ce médicament, ce nouveau médicament sur la tuberculose, ça voudrait dire qu'un État pourrait décider qu'un de ses fabricants le copie. C'est ça que ça voudrait dire.
Oui.
Concrètement, c'est
le
ça.
Copie en versant de l'argent également aux détenteurs du brevet. C'est-à-dire, c'est pas sauvage. Hein. Vous imaginez bien que les négociateurs dans les cycles de négociation de l'Organisation mondiale du commerce. C'est pas des expropriateurs. Donc il y a des mesures comme ça qui permettent de contourner le brevet pour des raisons de sécurité publique, santé publique, tout en versant des royalties des royalties raisonnables évidemment aux détenteurs du brevet.
Toujours concrètement, pour revenir à ce nouveau traitement contre la tuberculose tant attendu sur la tuberculose multirésistante pour le cas de l'Afrique du Sud, alors est-ce que l'Afrique du Sud a essayé de le copier ce médicament ?
Bah, pas pour l'instant, mais elle est en train d'essayer de définir une législation nationale sur la question des brevets, et c'est tout l'enjeu du contenu de cette législation nationale, de savoir si elle va se priver ou pas des possibilités qui, comme Céline les a mentionnées, ont été ouvertes par ou réaffirmées par l'accord de Doha en novembre 2001.
Céline Grillon, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'arrivée des traitements contre le sida, il y a déjà pas mal d'années. L'Afrique du Sud a décidé justement à un moment de les copier.
Si vous parlez du procès de Pretoria, c'est que l'Afrique du Sud a décidé d'importer des versions génériques de médicaments qui étaient brevetés en Afrique du Sud. À ce moment-là, l'industrie pharmaceutique a voulu sécuriser ses produits et a quand même entamé une procédure judiciaire contre l'Afrique du Sud pour l'empêcher d'importer des médicaments génériques. Finalement, sous la pression notamment des activistes de la santé sud-africain et de l'ensemble du monde, l'industrie pharmaceutique a dû
renoncer à son procès.
Tout à fait.
Elle a renoncé dans un contexte particulier, c'était le contexte du cycle de Doha où les États essayaient de mondialiser ce système de brevets et ils ont été obligés de reculer parce qu'il y avait un certain nombre de pays qui ont dit si la mondialisation du système de brevets, ça veut dire ce que vous faites en Afrique du Sud, là, avec les conséquences de santé publique que ça aura, nous, on signera pas cet accord international. Donc on a promis aux États concernés que des dérogations pourraient exister et c'est à cette condition que les accords ont pu être finalisés. Et alors aujourd'hui, on revient de manière souterraine presque sur les acquis qui étaient déjà très discutables à Doha, étaient assez fragiles, assez compliqués à utiliser. Mais même ça, on est en train de revenir dessus par des actions de pression, soit privées par des groupes d'intérêt privés, certains des groupes pharmaceutiques, et puis de la part de certains États ou groupes d'États comme les États-Unis et l'Union européenne.
Oui, c'est ça, c'est une grille. Comme bien même il y a cette déclaration de Doha, ce système de licence obligatoire que vous nous avez expliqué, qui finalement permet de copier un médicament, c'est compliqué à appliquer.
Oui, c'est très compliqué. Ça a un coût politique très fort. D'ailleurs, quand les premières licences obligatoires sur les trithérapies ont été émises par le Brésil et la Thaïlande, quand elle a émis une licence obligatoire, elle s'est vue menacée de rétorsions économiques. Elle a eu des pressions politiques de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Et le laboratoire Abbott a quand même menacé de ne plus enregistrer ses nouveaux médicaments en Thaïlande.
Et on le sent bien, on le voit bien dans les pays que vous avez cités, Brésil, Thaïlande, qui ont essayé d'utiliser ce système des licences obligatoires. C'est plutôt des pays à revenus intermédiaires que des pays vraiment très pauvres, qui n'ont jamais utilisé finalement ce système de licences obligatoires.
Il faut savoir qu'une des flexibilités de l'accord ADPIC rappelé dans Doha, c'est aussi une période de transition pour les pays classifiés comme pays les moins avancés. Ça concerne un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne francophone. Jusqu'en 2001, les pays considérés comme les moins avancés, ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'accord ADPIC et donc d'octroyer des brevets pharmaceutiques. Donc, pour l'instant, disons qu'en quelques mesures, ces pays n'ont pas besoin d'y recourir. Mais par ailleurs, ce serait difficile pour eux de le faire dans la mesure que ça implique des pressions politiques assez fortes.
Et Dr Bradal, ça implique surtout une production locale aussi.
Oui, il y a toute une technicité qu'il faut maîtriser, à la fois juridique et industrielle. Mais je voudrais aussi souligner que la majorité des pauvres ne vivent pas dans les pays les plus pauvres. La majorité des pauvres, ils vivent dans les pays intermédiaires, comme on dit, sur le plan économique. Donc si on verrouille par le jeu des brevets l'accès aux médicaments dans les pays intermédiaires sous prétexte qu'ils ont déjà atteint un certain stade de développement économique, on prive les plus pauvres de la planète de l'accès aux soins.
Hein. Et on pense effectivement aux pauvres dans ces cas-là des pays comme BRICS, l'Inde, la Chine et le Brésil.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'impact des brevets sur le prix des médicaments avec le docteur Jean-Hervé Bradol et Céline Grillon. Vous vouliez réagir, Céline Grillon, sur cette question des personnes en situation de pauvreté dans ces pays émergents que sont la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et même la Russie.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on mesure l'avancée des États par rapport à des indicateurs économiques qui ne tiennent pas du tout compte des inégalités internes au pays. Et effectivement, comme disait Jean-Hervé, la majorité des pauvres vivent dans des pays considérés comme à revenu intermédiaire.
On a au téléphone Otman Melouk qui coordonne le travail d'IPC MENA sur l'accès aux médicaments. Otman Melouk, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Maroc. On vient de parler de cette déclaration de Doha. Est-ce qu'elle est applicable au Maroc ?
Eh bien, malheureusement, non. Elle n'est pas applicable aujourd'hui ni au Maroc, ni dans un certain nombre de pays en voie de développement, parce que la nouvelle tendance à laquelle on assiste aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les accords de libre-échange, qui sont des accords qui sont poussés par des pays comme les États-Unis ou l'Union européenne, qui essaient un petit peu de repousser les limites qui ont été fixées par l'accord ADPIC et notamment toutes les flexibilités qui ont été laissées aux pays, en imposant des restrictions qui vont au-delà de cela et en annulant quasiment un certain nombre de flexibilités, et ce, à travers des accords de libre-échange. C'est ce qui s'est passé au Maroc en 2005 avec l'accord de libre-échange avec les États-Unis, qui ont fait que la loi, par exemple, aujourd'hui au Maroc sur la propriété intellectuelle est l'une des plus restrictives au monde à cause de cet accord. Alors, Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent tendance à penser que ce sont des accords bilatéraux, donc qui ne s'appliquent que entre le Maroc et les États-Unis. Mais en fait, il y a un principe de l'OMC qui fait que si on accorde des avantages à un pays de l'OMC, on doit l'accorder à tous les autres pays de l'OMC. Et donc, en signant cet accord avec les États-Unis, le Maroc a dû faire des concessions qu'il est obligé aujourd'hui d'accorder à tous les membres de l'OMC. Et par exemple, maintenant, selon la loi marocaine, c'est très difficile d'utiliser les licences obligatoires. C'est quasi interdit d'utiliser ce qu'on appelle les importations parallèles. On peut accorder des brevets sur des choses qui, théoriquement, selon l'accord ADPIC et selon l'OMC, ne sont pas brevetables. Par exemple, une modification mineure d'une molécule qui est très ancienne et donc qui ne peut pas être brevetée, ou bien une nouvelle indication, c'est-à-dire un médicament qui est ancien, mais on découvre qu'il a un effet sur une nouvelle maladie, et puis on peut accorder un nouveau brevet. Et c'est un petit peu la tendance qu'on voit aujourd'hui, que ce soit avec les États-Unis ou que ce soit avec l'Union européenne, et je pense que tout le monde a suivi un petit peu les négociations de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, qui cible vraiment la stratégie aujourd'hui des multinationales, c'est d'aller vraiment à la source, et on parle beaucoup de l'Inde comme étant la pharmacie du tiers-monde, et aujourd'hui tous les efforts sont focalisés sur ces pays-là parce qu'en fait, en bloquant la production de médicaments génériques en Inde, on ferme le robinet et en fait c'est beaucoup plus efficace que d'aller s'attaquer à tous les pays en voie de développement.
Avant de revenir sur ces accords de libre-échange là entre le Maroc et l'Union européenne, Othmane Menouk, de façon très concrète, quel impact ça a finalement sur les patients au Maroc? Ça veut dire que vous avez moins de génériques disponibles dans votre pays, par exemple, que chez nous?
Si on prend l'exemple par exemple du VIH, aujourd'hui il n'y a pas de problème pour ce qu'on appelle les traitements de première ligne, qui sont les traitements qu'on donne à une personne dès qu'elle est diagnostiquée, parce que la majorité de ces médicaments sont anciens et donc ont été produits ou découverts avant la création de l'OMC et avant l'accord ADPIC. Mais aujourd'hui on a un véritable problème d'accès aux nouvelles molécules qui coûtent beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, juste pour vous donner une indication, on a à peu près 20 patients au Maroc qui prennent ce qu'on appelle un traitement de troisième ligne, c'est-à-dire des gens qui ont essayé la première ligne, la deuxième, et ils sont résistants, et donc ils ont besoin de molécules beaucoup plus récentes. Aujourd'hui, pour le prix de 20 personnes, on peut soigner 2000 personnes en première ligne. Donc ces médicaments sont très chers pour le gouvernement marocain et malheureusement pour l'instant on arrive à soigner les 20 personnes qu'on a, mais dans les années qui viennent c'est quasi impossible pour le gouvernement de couvrir le coût de tels traitements. Alors la question se pose aussi sur d'autres pathologies qui sont malheureusement beaucoup moins médiatisées que le VIH, comme par exemple aujourd'hui le traitement de l'hépatite C qui coûte extrêmement cher, ou le traitement de certains cancers qui ne sont malheureusement pas disponibles au Maroc. Donc forcément, les personnes les plus fortunées peuvent se le payer, mais la majorité des gens ne le peuvent pas. Et d'ailleurs, nous aussi, on est classés dans cette catégorie de pays intermédiaires. Alors il faut penser, quand on dit pays intermédiaires, c'est pas que le Brésil, l'Argentine ou la Thaïlande, c'est aussi des pays comme le Maroc et qui subissent ce genre de pression. Et donc qui sont considérés, en prenant en compte le PIB, comme pas assez pauvres pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides ou de souplesse. Mais malheureusement, ce sont dans ces pays-là où il y a les plus grandes inégalités entre les riches et les pauvres, et ce sont ces pays-là où les patients paient en général de leur poche, parce qu'il n'y a pas de système de sécurité sociale, ou quand il y en a, ces systèmes ne peuvent pas rembourser ce genre de médicaments, parce que c'est tout simplement pas viable pour ces systèmes.
Et du coup, les gens n'arrivent pas à soigner, ce qui en termes de santé publique et de propagation de la maladie, on sait que c'est une absurdité. Juste une question, dans le cadre de ces accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne, du coup, qu'est-ce que vous demandez ?
Alors nous, on demande à ce que déjà les pressions sur l'imposition des clauses dites ADPIC plus cessent, et donc il faudrait pas qu'il y ait de ce type de clauses dans ce genre d'accord. Et ce qu'on demande, c'est aussi plus de transparence, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que alors l'Europe, c'est bien beau qui défend la démocratie dans les pays en développement en Afrique.
Je vais vous interrompre, Othmane Menouk, mais vous allez pouvoir poursuivre, mais simplement dans 3 minutes, juste après les informations, pour vous nous expliquer justement ces pressions menées par l'Union européenne.